Merci d'écouter Radio Bonheur. Voici les déchaînés du football ce soir, 19h05. Les déchaînés du football en direct, comme tous les lundis soirs, pendant 1h30 jusqu'à 20h30. En studio avec nous, Monsieur Gaëtan Pinel. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Derrière la vitre, également derrière le pupitre technique pour la vidéo, pour voir cette émission en direct sur la page Facebook des déchaînés du football, c'est Sébastien Leboudec qui s'occupe des manettes. Oui. Bonsoir Sébastien, il nous fait un petit coucou.
À
voilà.
Travers la vitre.
Pour ceux qui nous voient derrière leur écran interposé. Et puis évidemment, nous avons Pierre-Henri Dufay avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir Sébastien, Gaëtan, bonsoir à toutes
bonsoir.
Et à tous.
Les déchaînés du football, alors pour un week-end plutôt calme pour les professionnels qui n'ont pas joué, sauf pour les semi-pros de 3e division. Pas de match donc pour Lorient ni pour Brest, mais Saint-Brieuc et Concarneau par exemple en 3e division en national ont joué ce week-end.
Exactement, on aura d'ailleurs James Lemarer avec nous en milieu d'émission tout à l'heure, le capitaine des Briochins. On va commencer cette émission avec Quentin, un des membres du groupe Brestonnerre qui sera avec nous par téléphone dans un petit instant. On aura aussi La Taverne, le groupe de podcasteurs consacré au FC Lorient, mais aussi en toute fin de partie, la partie Guingamp, un chapitre un peu moins ordinaire, Pierre, puisqu'il y aura un auditeur et un fan d'en avant qui viendra vous défier au quiz Guingamp.
Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de quiz et je crois que vous en avez fait des tonnes et des tonnes, Gaëtan. Et là, je vais sortir de ma zone de confort. Je me mets en difficulté.
On va vous tester un petit peu.
J'ai passé le week-end à réviser tous les anciens livres de Guingamp. Je suis prêt.
Eh bien, ça tombe bien parce que c'est des questions que sur le futur.
Ah ben, très bien.
Non, mais on reviendra évidemment sur cette partie-là avec David, qui faisait partie des personnes inscrites, qui a été tiré au sort ensuite pour...
Oui, et on remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé et qui ont répondu à notre appel sur Facebook ce week-end. Voilà, on est désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu être tirés au sort, mais... Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres sur Radio Bonheur, et puis il y en aura surtout en vrai encore lorsque l'on pourra avoir un semblant de vie normale pour refaire ce que l'on avait fait tous ensemble en septembre, ce qui était très sympa du côté de nos amis de la mandoline, mon petit Gaëtan.
Oui, exactement, on devait avoir une deuxième édition, mais
hélas,
la crise sanitaire, on a décidé autrement. En tout cas, voilà, ce n'est que partie remise, sans doute dans un instant, probablement avec nous, Brest On Air, on a quelques difficulté pour joindre nos camarades, mais on va faire le maximum bien sûr. Bon, on l'a dit, il n'y a pas eu de match pour ces équipes de Brest et de Lorient, pour Guingamp non plus. Par contre, il y a quelques internationaux qui sont partis dans leurs pays respectifs pour jouer avec leurs sélections nationales respectives, et l'information principale dans tout cela, c'est côté Guingamp, puisque les Comores de Youssouf M'Changama se sont qualifiés pour la CAN, Pierre.
Oui. Oui, on en parlera dans une rubrique, parce que les Comores, je crois, jouent aujourd'hui contre l'Égypte pour connaître leur place dans le groupe, même si on sait que l'Égypte et les Comores seront qualifiés pour la CAN. Le Gabon aussi est qualifié, le Gabon de Lloyd Palin, avec aussi plein d'anciens Lorientais, Bouanga et Kwele Mangan, Dong notamment. Du côté de Brest, par contre, ça a été la soupe à la grimace pour Steve Mounier et le Bénin, qui n'avait besoin que d'un point pour se qualifier contre le Nigeria. Eh bien, le Bénin a joué tout le match, le 0-0, et puis à 5 secondes de la fin, le Nigeria a marqué sur corner, sur la toute dernière action du match. Du coup, le Nigeria est qualifié et le Bénin devra jouer demain, me semble-t-il, ou mercredi au Sierra Leone, un match à l'extérieur sur le continent africain. C'est toujours des matchs pièges, il faudra aller chercher au moins un point, toujours ce petit point qui manque aux écureuils du Bénin de Steve Mounier pour tenter de se qualifier pour la CAN. Et du côté des Merlus, on a notamment Armand Lorienté avec l'équipe de France Espoir, Gaëtan.
Oui, l'attaquant Lorientais, l'ailier Lorientais, qui n'avait jamais été convoqué dans les équipes de France de jeunes, hein, jusqu'à présent, jamais en U16, 17, 18, etc. Et là, pour la première fois, il a été convoqué par Sylvain Ripoll parce qu'il y a eu une blessure. Il a remplacé, je crois, numériquement Oussem Aouar dans le groupe des Espoirs. Et Armand Lorienté, qui a disputé ses premières minutes avec l'équipe de France Espoir, donc lors de la défaite contre le Danemark, puis lors de la victoire hier contre la Russie. Retour dans le Finistère et côté Stade Brestois 29 avec nos amis de Brest On Air, Pierre.
Oui, c'est Quentin qui est avec nous ce soir. Bonsoir Quentin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, on voulait faire avec vous, comme on l'avait déjà fait un petit peu plus tôt dans la saison, un petit bilan du temps de passage avant le sprint final dans ce championnat de Ligue 1. On rappelle que Brest est plutôt à l'abri pour le maintien, même si c'est pas encore tout à fait validé. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, vous, suiveur du Stade Brestois? On rappelle, Brest On Air, c'est un podcast qui est disponible toutes les semaines pour les supporters brestois. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui à l'entrée du sprint final?
Ben, ça dépend un peu des personnalités de chacun. Il y a des gens un peu plus optimistes comme moi et quelqu'un qui est un peu plus pessimiste. Moi, je vois plutôt le bon côté des choses, c'est-à-dire je pense qu'il y a pas mal de clubs en dessous de nous qui aimeraient être à la place du Stade Brestois, avec ces quelques unités d'avance sur la zone rouge. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi la série qui est pas bonne actuellement et le fait que Brest va jouer beaucoup de concurrents directs. Donc, c'est sûr que des défaites contre ces concurrents directs font immédiatement très très mal et pourraient mettre le club dans perdre contre Paris, contre Rennes, contre Monaco, c'est normal, on va dire. Mais perdre contre des Nantes, contre des équipes qu'est-ce qui arrive encore.
Il me semble que sur les cinq prochains matchs, vous jouez quatre fois les équipes qui sont derrière
Nîmes,
vous. Il y aura Saint-Étienne, Lorient, Nîmes et Nantes. C'est ces quatre matchs-là qui vont définir la fin de votre saison.
Ouais, c'est ça. Et une ou deux victoires et immédiatement les 42 points ou la barre des 40 points qui, je pense, devrait être suffisante pour se maintenir serait atteint. Donc effectivement, il faudrait, je pense, une ou deux victoires contre ces équipes un peu mal classées, moins bien classées que le Stade Brestois. Et on devrait s'en sortir plutôt tranquillement et peut-être aller chercher une meilleure place que la 14e qui était celle lorsque le championnat s'est arrêté la saison dernière.
Alors, vous avez lancé, je crois, un petit sondage ces derniers jours, ces dernières semaines, parmi votre communauté de supporters brestois. La question, c'était, faut-il s'inquiéter, justement, pour les TISEF? Quelle a été la tendance générale de ce sondage-là?
Alors, je vais peut-être essayer de le retrouver d'abord, mais je pense que c'est assez égal. Comme je le disais, je pense qu'il y a des joueurs... pas des joueurs du tout.
Peut-être des joueurs aussi.
Plus optimistes. C'est vrai. Peut-être les joueurs ont aussi voté. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens plus optimistes, des gens plus pessimistes. Il y a tout. Je pense que les deux se valent. Hein. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Heureusement, on va dire, ça dépend pas de nous, qui ne sommes pas sur le terrain. Et on va voir, nous on n'est que spectateurs et on n'a pas trop trop d'incidence, encore moins cette année on va dire. Même si le Stade Brestois performe plutôt bien à domicile et je pense que ce sera aussi sur ces matchs à domicile. Le Stade Brestois peut jouer avec n'importe qui, même un gros à domicile. Et on sait qu'il y a Paris qui arrive lors de la 38e journée. Donc pourquoi pas être maintenu peut-être avant la 38e journée?
Ça serait mieux.
Ça pourrait être une bonne idée, surtout que... On pouvait penser que Paris serait déjà champion tranquillement à la 38e, mais visiblement ça n'en prend pas le chemin. Donc se maintenir après la 37e journée, au moins.
Et justement, vous parliez des matchs à domicile où c'est vrai, régulièrement Brest fait le travail, même s'il y a eu ce dernier 0-0 contre Angers assez soporifique. Mais encore une fois, on remarque que Brest a toujours ses deux visages, celui à domicile, celui à l'extérieur. Comment vous l'analysez de voir pour la deuxième année de suite autant de différences entre les deux?
C'est une vraie bonne question. On a eu la chance d'avoir Romain Perrault dans le podcast, et lui est l'un des des joueurs qui a un peu plus de franc-parler que les autres. Mmh. Et il nous disait que c'était au niveau du caractère que ça manquait. Et là, paradoxalement, cette saison, on peut pas vraiment mettre en cause les ambiances à l'extérieur, puisque y en a pas. Hein. Et c'est vrai que ça pose question. Est-ce que ce sont les joueurs? Est-ce que je pense que la méthode d'Alobio ne change pas que le Stade Brestois évolue à domicile ou à l'extérieur? Donc ça doit être mental, mais c'est vrai que le fait que ça dure depuis quand même 18 mois sans finalement voir de changements assez notables. Il y a quelques bonnes performances, mais pas de gros coups d'éclat. Hein. Généralement, on sait sait ce qu'on va voir quand Brest joue à domicile, mais on sait aussi malheureusement ce qu'on va voir quand Brest joue à l'extérieur. Ouais. Et ça manque un peu de coups d'éclat. Il y a eu quelques matchs intéressants comme celui à Rennes l'année dernière à 1-0-0. La fin de match contre Strasbourg a montré pas mal de caractère aussi avec ces deux buts dans les dernières minutes. Mais c'est une vraie bonne question et même je crois que le coach n'a pas vraiment répondu ou on lui a peut-être pas posé la question, mais c'est sûr que c'est une vraie grosse interrogation.
Ouais, lui disait, je crois que des collègues l'ont fait, il disait il y a même des joueurs qui sont pas du tout les mêmes à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, c'est effectivement un point de progrès pour cette équipe de Brest qui nous régale peut-être un peu moins en termes de jeu. C'est vrai que Brest a marqué les esprits dans la première partie de saison avec des matchs superbes, notamment celui contre Lille, la première période aussi contre Saint-Etienne, et la presse nationale parlait beaucoup du jeu de Brest, a mis en avant aussi les idées de Daloglio. C'est un peu moins le cas en ce moment. Est-ce que vous aussi, vous avez une explication à ça? Est-ce que vous aussi, vous attendez peut-être un peu plus du jeu brestois dans cette deuxième partie de saison?
C'est sûr que pour moi, le niveau de jeu, on va dire, collectif a baissé, et que ce soit à domicile malheureusement ou aussi à l'extérieur. Je pense que le départ d'Ibrahima Diallo a beaucoup à voir avec ça. Il y a peut-être moins d'assises au milieu de terrain, moins de confiance en Paul Lannes, surtout face à des équipes qui maintenant pressent très haut le Stade Brestois parce qu'elles savent plutôt que le Stade Brestois va essayer de relancer court et que l'équipe est pas mal coupable de quelques fautes. On l'a vu notamment contre Lyon. Hein. Et c'est quelques fautes dans les 20-25 derniers mètres, ces fautes techniques qui ont coûté très rapidement des buts. Et effectivement, c'est sûr qu'on a une équipe du Stade Brestois qui, en plus, actuellement, a des individualités qui sont peut-être un peu moins en vue.
Lesquelles ?
En début de saison, notamment Romain Fèvre, hein, qui, ouais. Je pense, est possiblement fatigué, ce qui serait normal. Hein, c'est sa première saison, finalement, professionnelle à ce niveau. Et par exemple, un joueur comme Steve Mounier aussi, qui est un peu plus en difficulté, qu'on arrive moins à trouver. C'est un tout, je dirais, et c'est vrai qu'on a Brest a moins de solutions. Brest avait l'opportunité de bien jouer au football cette saison, en début de saison notamment, mais le fait de prendre beaucoup de buts malgré le peu d'occasions adverses, finalement c'était pas mal de buts sur des situations un peu invraisemblables, là, je pense fait changer de stratégie à Olivier Deloglio et peut-être un peu au dépend de la qualité de jeu. Et comme je le disais, voilà, les individualités qui sont peut-être un peu moins mises en avant et peut-être fatiguées avec un manque de turnover malgré le fait que Brest est recruté dans cette optique-là. Il y a quand même un banc qui devrait faire l'affaire, mais des joueurs comme par exemple Philippe Otto sont peut-être un peu moins bons qu'ils ne devraient l'être.
Oui. Il reste 2-3 minutes dans cette petite interview bilan. Quentin, on rappelle, vous faites partie du podcast Brest On Air. Par rapport à cette fin de saison, on se souvient qu'en 2012-2013, Brest, à la mi-saison, était plutôt dans une bonne position au classement et puis avait terminé par 11 défaites de suite. Est-ce que ce spectre-là existe encore dans les mémoires des suiveurs brestois où vous vous dites que ça ne peut n'arriver qu'une fois, que c'est une autre histoire, une autre époque? Ou est-ce que c'est toujours un petit peu dans un coin de votre tête?
Déjà, moi, ce n'était pas dans un coin de ma tête jusqu'à ce que vous me le rappeliez.
Ah, j'en suis désolé.
ça, c'est pas de mon souvenir, évidemment. Mais je pense que le club a largement évolué dans son professionnalisme, on va dire. Et que l'effectif est quand même largement au-dessus de celui qui était là en 2012-2013. C'est un tout. Je pense que voilà, le Stade Brestois c'est vraiment amélioré à tous les étages et un club beaucoup plus professionnel. Et je pense que l'institution a pris beaucoup de galons depuis l'arrivée de Denis Le Saint notamment et de Grégory Lorenzi qui fait quand même un travail assez remarquable à son poste, surtout pour un novice hein, finalement. Et non, il n'y a pas vraiment de. Je pense qu'on peut pas comparer vraiment les deux saisons, celle en cours et celle de 2012-2013, où là c'était vraiment un véritable supplice. Et enfin, on savait quand ça allait se terminer, mais on avait vraiment hâte. Là, il y a quand même de l'espoir et finalement un Stade Brestois qui est quand même plutôt bien solidement ancré en bas du ventre mou, mais toujours dans le ventre mou.
Ouais. Et dernière question, parce qu'évidemment ce week-end c'est le derby, Lorient-Brest, quelle est la place de ce derby dans l'esprit des supporters brestois? On sait que la plus grande rivalité c'est Brest-Guingamp, il y a un derby Brest-Rennes aussi. À quelle place vous situez ce Brest-Lorient? On se rappelle quand même aussi qu'il y avait une petite rivalité lors des dernières années de Ligue 2. Pour vous, à quelle place vous situez ce derby?
Ouais, c'est ça, en fait, il s'est un peu créé de lui-même, parce que finalement, Brest, pendant beaucoup de temps, s'est croisé avec Guingamp. Brest descendait, Guingamp montait, et inversement. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu de Brest-Guingamp, donc pour vibrer un peu, il y a eu un peu cette rivalité qui s'est créée avec Lorient, puisque Lorient et Brest évoluaient dans la même division, et c'est sûr que maintenant, on se prend en jeu, il y a eu quand même des très très gros matchs, notamment celui de le 3-2 un samedi après-midi, le soleil rayonnait sur Francis Leblay avec un Gaëtan Charbonnier de gala. C'est sûr que ce sont des souvenirs qui vont rester très très longtemps dans ma mémoire en tout cas. Et c'est vrai que il y a quand même une rivalité qui s'est créée entre les deux clubs, notamment aussi sur le marché des transferts, hein, puisque
le fameux Garbage.
Par exemple. Puisque les deux clubs sont pas mal sur les mêmes joueurs, hein, évoluent dans le même marché, en tout cas de bas de tableau Ligue 1. Mmh. Et donc ça crée effectivement une sorte de rivalité, même si je pense qu'elle est, on va dire, plus importante avec Lorient, n'a pas vraiment de rival historique. Mmh. Enfin, plus important pour Lorient, pardon, qui n'a pas vraiment de rival historique, alors que Brest a le côté Guingamp pour son côté sportif, on va dire. Et peut-être le côté rennais avec l'ouest et l'est de la Bretagne, entre les deux plus grosses villes de la Bretagne.
Eh bien, on suivra avec attention donc ce Lorient-Brest. Ça sera dimanche à 15h sur Radio Bonheur. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir été avec
nous. Merci à vous.
Et puis, bonne chance pour le derby et la fin de saison. À bientôt.
Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez en savoir plus. Alors je vous dirai que c'est 3 ans d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures certifiées BMW Premium Selection. Les occasions éphémères BMW, c'est jusqu'au 31 mars seulement.
Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion certifiée BMW Premium Selection hors M dans les concessions participantes jusqu'au 31 mars 2021. Nos concessions en zone de confinement vous accueillent sur rendez-vous. Détails sur bmw.fr.
En créant Aesio, nous avons décidé d'être une mutuelle et donc de suivre une autre voie, celle du partage, celle qui consiste à penser aux autres plutôt qu'à soi, à se donner les moyens d'en faire toujours plus pour la santé de chacun, des prestations innovantes et des offres adaptées. Ce n'est pas forcément la voie la plus simple, mais pour nous, c'est la meilleure pour être vraiment ce lien sur lequel chacun peut compter. Aesio Mutuelle, décidons ensemble de vivre mieux.
Informations et conditions sur aesio.fr ou dans l'une de nos 300 agences en France.
Les ateliers du réseau Renault sont ouverts pour assurer votre mobilité. Afin de vous protéger au maximum, nous continuons de tout faire pour vous accueillir en toute sécurité et vous garantir le respect des règles sanitaires. Pour que vous soyez également en sécurité sur la route, rendez-vous dans votre atelier Renault pour découvrir les forfaits d'entretien prix serré. Si votre véhicule Renault a plus de 5 ans, profitez d'une remise de 15% sur toutes les opérations d'entretien et d'usure. Offre réservée aux particuliers, conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr.
Sonia a lancé une pâtisserie en ligne qui a un succès fou. Mais pour elle, gérer un site web, c'est pas de la tarte.
Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, faut vite que je trouve quelqu'un pour la partie digitale.
Il est temps d'embaucher.
J'ai besoin d'Indeed.
Indeed vous propose des profils de qualité adaptés aux besoins de votre entreprise. Découvrez pourquoi plus de 160 000 entreprises en France utilisent Indeed. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre d'emploi. Offre soumise à condition.
Ce n'est pas du luxe de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien dans sa peau. Non, ce n'est pas du luxe. Pourtant, 4 Français sur 10 ont déjà renoncé à acheter des produits d'hygiène faute de moyens.
Leclerc lance les basiques de la salle de bain pour toutes et tous à 7,75 € et les protections hygiéniques à 2,25 €. Le tout pour un usage d'un mois minimum. Et ceci n'est pas une promotion.
Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous.
Offre valable en magasin et drive hors Drumcom. Produits concernés sur www.lesbasiques.leclerc.
EDF. Content de déménager, surtout cette année, car je vais pouvoir compter sur EDF pour m'aider.
Ça fait plaisir.
Eh oui, en ce moment, EDF fête ses 75 ans. Ça vaut le coup de déménager. Pour toute souscription d'un contrat de gaz ou d'électricité, EDF vous fait bénéficier de bons plans et de réductions pour votre déménagement. Appelez le 3004. EDF. Service et appel gratuit. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous le savez, tous les lundis soirs, on est en direct avec les déchaînés du football sur Radio Bonheur pendant 1h30 jusqu'à 20h30. Alors, pas de Ligue 1 ni de Ligue 2, mais on parle quand même de Brest. On a parlé de Brest et on va parler de Lorient dans un instant, Gaëtan.
Oui, après les podcasteurs brestonnaires, place aux podcasteurs de la Tavarne du côté de Lorient, les fidèles du FCL. Et avec nous ce soir, mais pour cette première interview de la Tavarne sur Radio Bonheur, parce qu'on ne les a pas encore eues cette saison, quel grand moment. C'est Pierrot qui sera avec nous ce soir, qui est d'ailleurs avec nous. Bonsoir Pierrot.
Salut, merci de nous accueillir ce soir.
Bonsoir. C'est avec grand plaisir évidemment qu'on vous accueille sur Radio Bonheur.
Gaëtan, je suis désolé, j'interviens, j'ai juste une question. Pourquoi la Tavarne?
Pourquoi la Tavarne? Parce que c'est l'un de nos bars fétiches en dessous de la tribune et qui s'appelle comme ça.
Ah, c'est beau.
Très bonne référence. Mais c'est une bonne question, une bonne entame de Pierre, parce que ma question était la suivante. Vous avez créé la Tavarne avec une bande de copains. C'est un groupe de podcasteurs sur le FC Lorient. Mais quel est un peu votre credo? Comment que ça fonctionne chez vous en fin de compte? Parce qu'on ne vous connaît pas encore beaucoup sur Radio Bonheur en tout cas.
Comment on fonctionne? Déjà, on a décidé de créer ce podcast. On avait une petite idée en tête en regardant un peu ce qui se faisait sur le documentaire de Sunderland sur Netflix, et qu'on voyait que les mecs, ils partageaient leur frustration un peu sur leur podcast, et on s'est dit on va essayer de faire pareil pour cette année en Ligue 1. Puis avec les collègues, on avait tous cette idée là en tête de créer ça cette année, et du coup on s'est lancé, et puis ça fonctionne plutôt bien.
Alors si on est ensemble ce soir, c'est aussi et surtout pour parler du football club de Lorient, de la saison des Merlus, du retour des Merlus en Ligue 1. Quel est votre regard sur cette saison des Merlus qui ont eu un gros coup dur pour leur retour et qui depuis relèvent la pente depuis le début de l'année 2021?
Clairement, première partie de saison, c'était très compliqué. C'était même un peu horrible de regarder les matchs parce que on n'avait pas trouvé, il y avait très peu de fond de jeu, on n'arrivait vraiment pas à développer quelque chose. Et depuis que Pélissier a trouvé son schéma tactique en 5-3-2 ou 3-4-3, on arrive à prendre des points, on arrive à mieux jouer et gagner en grange de la confiance. Donc on a réussi à faire une belle petite série pour remonter la pente. Et là en ce moment on stagne un peu, donc j'espère qu'on va finir en beauté avec un gros sprint final qui commence ce week-end contre Brest.
Oui, pour le derby évidemment, on rappelle que Lorient sort de 4 matchs sans défaite, une victoire contre Saint-Etienne, puis 3 matchs nuls contre Montpellier, Nice et Nantes, avec évidemment ce sublime but d'Armand Lorienté. Vous Pierrot, vous vivez plus la saison en tant que supporter ou podcasteur cette saison?
Plus du côté supporter quand même, hein, parce que on suit vraiment tous les matchs à fond.
Ça par rapport au fait de pas pouvoir aller au stade aussi, bien sûr.
Oui, après on a pu aller, moi pour ma part j'ai pu aller quelques matchs en début de saison quand il y avait la jauge à 5000, donc ça, il y a un peu moins de frustration parce que j'ai pu aller voir des matchs cette année, mais ouais, le côté podcaster prend le dessus sur le reste de la saison.
Ouais, puis on vous voit très actif aussi quand Lorient marque, fait un bon résultat, mais il y a aussi une part d'autodérision finalement dans tout ce que vous proposez.
C'est la base, parce que nous on voulait faire un truc un peu sérieux, mais quand même avec beaucoup d'autodérision pour essayer de faire rire les gens. Et puis Lorient c'est pas un club qui va jouer à chaque fois le haut du tableau, donc on va souvent perdre, faire souvent des contre-performances, donc rigoler de ça, c'est aussi passer des défaites, quoi.
Une question de Pierre.
Oui, une question de Pierre pour Pierrot. Par rapport au sprint final qui attend Lorient, on voit depuis des semaines et des semaines que ça se tire la bourre entre Lorient, Nîmes et Nantes. Quel est l'adversaire que vous craignez le plus entre Nîmes et Nantes?
Les deux. Les deux, Nîmes, parce que je trouve que c'est une équipe qui a une rage de vaincre et une grosse mentalité, et qui arrive à faire un peu déjouer ses adversaires en ce moment. Mmh. Et Nantes, ça reste quand même une équipe assez forte intrinsèquement au niveau des joueurs. Après l'équipe qui me fait la moins peur, on va dire, par contre, c'est Saint-Étienne qui est juste un peu devant nous, quoi.
Vous pensez que Saint-Étienne ça peut revenir, ça peut recoller aussi, vous pensez?
Ouais, je pense que d'ici la fin de saison, on peut recoller avec Saint-Étienne. Pour moi, c'est un championnat à 4, et c'est de ces 4 équipes-là, enfin de ces 3 autres adversaires, c'est eux qui me font moins peur.
Ben on se rend compte, c'est vrai qu'avec une victoire par exemple contre Brest dimanche prochain, tout se resserrerait un peu plus, même avec le stade brestois d'ailleurs. On va y venir dans un instant. Déjà, est-ce que vous imaginez un maintien du FC Lorient en fin de saison? Vous y croyez plus que jamais à ce maintien grâce à cette belle série depuis le début de la phase retour, ou on reste encore un petit peu sur nos gardes?
Je pense qu'il faut rester quand même sur nos gardes. Hein. On n'est pas à l'abri de complètement soit faire une belle série, soit complètement se rater. On n'est qu'à un point du premier relégable, donc c'est à rien du tout. C'est comme si on était à égalité. Moi, franchement, j'y crois assez sereinement. Je pense qu'au pire, on fait barragiste, mais je pense que vu l'équipe qu'on a et la force, la mentalité que les joueurs ont depuis la deuxième partie de saison, fait que je pense qu'on va se maintenir.
Vous parliez justement des atouts de Nîmes et de Nantes. À Lorient, ce serait quoi la carte à jouer pour se sauver? C'est quoi l'atout majeur finalement des Merlus?
Bah, l'atout majeur des Merlus, ça va être que nos joueurs devant arrivent à être bons et complémentaires en même temps, parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a un peu des individualités qui sortent, mais pas au même moment. Là, par exemple, en ce moment, on a Armand Lorienté qui surnage. Alors, on a eu une période où c'était Mofi, on a eu une période où c'était Wissa, et malheureusement pour nous, les trois arrivent jamais à performer en même temps. Donc, je pense que la clé du maintien, elle sera là.
Peut-être contre Brest dimanche au Moustoir, parce que le derby arrive, c'est le prochain match des Merlus, Lorient-Brest à 15h sur Radio Bonheur bien sûr. S'il y a une petite revanche à prendre sur ce derby après la défaite du match aller?
Ah bah clairement, hein, même si on reprend pas le fait du match aller, un derby contre Brest, ça se gagne de toute manière, donc faut obligatoirement gagner, et d'autant plus qu'on peut... On peut recoller à 3 points de Brest et leur faire peur un petit peu aussi, quoi.
On posait la question à vos homologues de Brest-Tonnerre il y a un instant sur la place du derby Brest-Lorient de leur côté. Vous, ce derby contre le stade brestois, quelle place il a? On sait que Lorient n'a pas forcément de grosses rivalités avec Rennes, Guingamp, Brest. C'est peut-être moins marqué en tout cas que chez d'autres clubs. Contre Brest, ça a quelle place pour les Merlus?
Pour nous, c'est quand même le derby le plus important, plus que contre Nantes ou Rennes ou Guingamp, puisque c'est quand même ces deux villes un peu, enfin, toute proportion gardée, un peu similaires, ces deux ports. Les deux clubs sont à peu près identiques en termes de culture. Donc pour moi, ouais, c'est la principale rivalité. Et puis il y a aussi une rivalité entre les deux groupes ultra, donc ça fait. Ça fait partie aussi d'un peu du folklore de ce derby.
Et le fait de se croiser régulièrement aussi depuis quelques saisons maintenant, depuis notamment que Lorient était redescendu en Ligue 2, ça a forgé aussi cette culture de la rivalité, du derby entre les deux équipes?
Oh bah, clairement, surtout que maintenant, avant qu'on redescende, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents. Maintenant, quand on est descendu, les réseaux sont présents, ça se chambre, ça se tacle un peu toute la semaine précédant le derby, et la semaine d'après, ça a pris un peu plus d'ampleur avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui, quoi.
Ouais, et notamment sur Twitter, parce que c'est là qu'on vous trouve beaucoup, hein, la taverne, bien sûr, depuis le début de la saison. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Pierrot, d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Eh ben, merci à vous.
Merci, bonsoir.
Merci, bonne soirée.
Bonsoir.
Oui, les Merlus qui joueront dimanche contre Lorient lors du match.
Un super derby. Enfin, c'est un derby important pour les deux clubs.
Oui, puis c'est ce qu'on disait. Il peut relancer toutes les cartes, comme voir Brest se mettre aussi quasi définitivement à l'abri en vue du maintien. Parce que si les Brestois, en jetant un petit coup d'œil sur le classement, gagnent ce match, ils seraient à 38 points. Et auraient donc.
Ce serait quasiment fait pour eux.
Oui, c'est ça. Ils auraient 8-9 points d'avance sur la
Je vois bien le match nul, moi.
Et ça peut aussi, dans des matchs comme ça serrés, l'enjeu peut parfois prendre le dessus. Après, on sait qu'un match nul n'arrangera finalement pas, surtout pas les Merlus, mais bon, voilà, ça peut être serré. Mais en tout cas, Pierre, on voyait notre ami de la taverne, Pierrot, qui lui voyait même Saint-Etienne à rebasculer dans ce bas de tableau éventuellement.
Oui, mais ça vient corroborer ce qu'on analyse depuis des semaines et des semaines dans cette course au maintien. Ça fait des semaines et des semaines que.
On a même Bordeaux, on a parlé de Bordeaux aussi.
Ouais, on en parlait,
Bordeaux n'est pas bien du tout. Pas loin, des équipes qui sont pas loin comme ça et qui sont sur des mauvaises séries. Brest, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on le rappelle, c'est la 19e équipe sur les matchs retour. Donc la dynamique, elle n'est pas bonne non plus. Mais comme il y avait. Fut un temps presque 10 points d'avance, ça ne se voyait pas. Mais le fait que Lorient, Nîmes et Nantes sont dans leur championnat à 3, se tirent la bourre et prennent des points quand même assez régulièrement, vu que les autres n'avancent plus, ça recolle. Alors après, il suffit
les trois derniers finissent par se rapprocher du peloton.
Il suffit de 2-3 victoires pour les Saint-Etienne, Strasbourg, Brest, Bordeaux. Mais ces quatre clubs-là sont pas à l'abri d'une catastrophe. Même si c'est vrai que je suis pas trop inquiet pour les Brestois, ils auraient la bonne idée de pas perdre à Lorient dimanche parce qu'effectivement, ça peut tout relancer d'ici la fin de saison.
Si on regarde le programme de ce week-end, il y a Lorient-Brest, oui, mais il y a aussi Bordeaux-Strasbourg, deux équipes donc qui sont juste au-dessus, et Nîmes-Saint-Etienne. Attention, parce que si Nîmes bat Saint-Etienne, là, clairement, les Stéphanois seraient de retour dans cette lutte.
Et il y a Brest-Nîmes aussi bientôt.
Il y a Brest-Nîmes, je crois que c'est le match suivant. C'est ça, Francis Leblé, pendant que Lorient se déplacera à Lens. Mais oui, c'est clair que ça peut rebattre les cartes. Et on le disait pour nos amis brestois il y a quelques minutes, il y a cette série là de matchs contre les équipes du bas tableau, contre des concurrents directs, alors qu'ils n'étaient pas vraiment sur la première partie de saison, parce que Brest avait pris ce temps d'avance, mais qui pourrait le redevenir si les résultats ne retrouvaient pas une certaine note de positif dans les prochaines semaines pour le stade brestois.
Soyons positifs, on l'est de plus en plus en France.
Oui, c'est vrai, on est positif un peu partout, mais pas dans le même sens du terme.
Au sens
mais là,
propre ou au sens figuré.
Voilà, c'est ça, c'est à définir, mais bon, c'est vrai que ce week-end, on pourra pas être positif pour toutes les équipes qu'on suit parce qu'elles s'affrontent entre elles. Lorient et Brest sur Radio Bonheur, match à 15h dimanche et évidemment prise d'antenne à 14h30. Et d'ailleurs, à partir de demain et jusqu'à vendredi, on consacrera les rubriques 29 et 56 à d'anciens derbies entre Brest et Lorient. On reviendra sur des matchs un peu historiques et des matchs qui ont marqué ce derby-là tout au long de la semaine. On ne vous en dit pas plus, on vous laissera découvrir tout cela au fil des jours. Cette semaine, je ne sais pas si on a une petite page de pub qui arrive, oui, maintenant, eh bien allons-y, on basculera ensuite sur le championnat du National.
Le 13 août 1987, Jean-Paul II me demanda d'aider les familles à prier dans les églises domestiques que sont leurs maisons, afin de se rapprocher de Jésus. Ce petit ouvrage, si bien illustré par Philippe Pelletier, est dans ce sens une aide précieuse pour toutes les familles et un excellent cadeau à faire.
Le mini-évangile du Pérouzet est vendu 12€ l'exemplaire, frais de port inclus, ou 10€ sur place à Pléneuf-Val-André. Renseignements et commandes au 09 66 01 24 68. C'est bientôt Pâques, pensez-y dès maintenant.
Le magazine des déchaînés du football en direct jusqu'à 20h. On a été surpris par la fin des pubs. On essaye de joindre James Lemarreur. Ça va peut-être venir dans quelques instants.
Oui, dans un instant. En attendant, plutôt, on va s'intéresser aux résultats du week-end. Une journée de nationale qui se terminera d'ailleurs ce soir dans le haut de tableau entre l'US Orléans et le Sporting Club de Bastia. Les autres matchs se sont joués vendredi et samedi, puisque vendredi soir, Bastia Borgo et Cholet ont fait match nul 0-0. Villefranche s'est imposé 2-0 sur la pelouse de 7. Et puis samedi, il y avait la majorité des matchs avec quelques surprises, hein. C'est notamment la victoire d'Avranches contre le Red Star, 1-0. Le derby entre Laval et Le Mans, remporté par les Tangos du stade Lavallois, 2-1. La victoire là, dans un duel de relégables, d'Annecy sur la pelouse du Sporting Club de Lyon, 3-0, avec un triplé de Romain Spano. Victoire de Bourg-en-Bresse à Concarneau, 1-0, but de Karchi à la 72e, Geoffrey Karchi. Et puis le stade briochien qui a partagé des points avec le leader provisoire du championnat, Quevilly-Rouen, un but partout.
Oui, et même le stade briochien qui à un moment donné se retrouvait en position de barragiste pour disputer les barrages pour monter en Ligue 2.
C'est vrai.
Mais il y a eu cette égalisation.
Oui, c'est Maël Lilien qui avait ouvert le score à la 33e pour les Griffons, et Yacine Bahassa sur pénalty a égalisé à la 59e pour QRM. Avec nous pour revenir sur ce match, le capitaine des Griffons, James Lemarreur. Bonsoir James.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors c'était bien parti, hein, contre Quevilly-Rouen pour créer une nouvelle sensation, une surprise dans cette soirée de nationale.
Ouais, on avait la possibilité à la fin de ce match d'être troisième sur cette journée-là. On se l'était dit aussi avant le match, en fonction des matchs qui avaient lieu, avec des confrontations un peu directes. Donc on savait que si tout se boutiquait bien pour nous, on pouvait être troisième. Et ouais, on l'a été, mais seulement 10 minutes, quoi. Donc c'est ça qui est un peu frustrant sur ce match-là, parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour le gagner. Et sur la seule occasion que se crée Kevin, ils nous punissent, quoi.
Et là, la sanction de l'équipe qui va bien, hein. Souvent on le sait, les équipes qui vont bien n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. C'était le cas pour les Normands. Vous avez distancé la zone rouge maintenant, mais vous revenez effectivement sur le haut tableau. Alors il y a deux matchs d'avance pour Saint-Brieuc sur Concarneau et le Red Star, mais quand même cette troisième place, vous commencez à y penser, vous vous dites qu'il y a quelque chose à jouer peut-être dans ce haut tableau.
Alors déjà, on va assurer le maintien jusqu'au bout, parce qu'on voit que le championnat est quand même un petit peu bizarre, et une série négative, on serait obligé de regarder encore vers le bas. Donc je pense que voilà, il nous faut encore deux victoires pour vraiment assurer ce maintien. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit qu'on n'est plus qu'à un ou deux points de la troisième place, alors oui, on a des matchs en retard, mais il faut les gagner aussi, ces adversaires-là. Ouais, non, c'est vrai que on se prête au jeu et on se dit pourquoi pas se donner une fin de saison avec un objectif qui n'était pas prévu en début de saison, quoi.
Et justement, pour cela, il y a un déplacement le week-end prochain à Bauer, sur la pelouse du Red Star, qui fait partie de ces équipes là dans le haut de tableau à chasser cette troisième place. Est-ce que ça peut être le match pour croire à une folle fin de saison finalement pour le Stade Briochin?
Clairement, on va les jouer. Eux rejouent mardi en championnat, un match en retard. Ils ont leur match de Coupe de France contre Lyon la semaine après, le mardi ou le mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai qu'on les joue entre guillemets à un bon moment de la semaine, entre ces deux matchs-là. Donc voilà, nous, il faut qu'on y aille en ayant bien récupéré. On va récupérer aussi pas mal de suspendus et de blessés pour ce match-là. Donc c'est vrai que voilà, si on veut se donner l'opportunité d'avoir une belle fin de saison, ça passe par une victoire ou au moins un nul là-bas à Bauer.
Oui, là où c'est souvent très difficile, hein, de gagner sur la pelouse du Red Star. Quel serait le...
Dis donc Gaëtan, il est à quelle heure il est quand et à quelle heure ce match?
Ah oui, parce que vous pourriez suivre ça de près, Pierre. C'est à 20h le 3 avril. Le 3 avril, c'est vendredi, samedi?
Samedi, ouais,
c'est
samedi,
ça.
Ah bah il y a 3 Guingamp, ah, les amis.
Ça tombe pas au gros 5 de national.
Décalé, mettez-le le vendredi, je peux y aller à pied, c'est mieux.
On vous donne cette mission, James, avant le match de décaler.
Faites tout.
En tout cas, quel serait ou quel oui, le ou les atouts de Saint-Brieuc là, pour aller chercher cette troisième place, parce que Saint-Brieuc promu, c'est pas une équipe qu'on attend forcément à jouer le podium en début de saison. Et puis finalement, on se rend compte que vous êtes là. Ce serait quoi l'atout principal?
L'atout là, de cette deuxième partie de saison, c'est surtout notre solidité défensive, parce qu'on prend très peu de buts. Donc déjà, bah, continuer voilà, à travailler ensemble, parce que c'est pas que le défenseur, ça a été une réaction de toute l'équipe, et on défend beaucoup mieux. Là, on récupère aussi des joueurs offensifs avec Charlie Dutournier qui revient, il y a Rémi Fombertas qui revient aussi un peu dans le groupe, il y a Valentin Lavigne qui était blessé, donc on va avoir des cartouches offensives pour créer beaucoup de soucis à ces équipes-là du haut de tableau. Donc c'est surtout rester solide défensivement, et puis après on va avoir les opportunités pour punir et continuer à faire ce qu'on fait depuis un petit moment déjà là.
On sait que le Red Star, qui est le prochain adversaire, c'est l'équipe qui a sans doute fait la meilleure impression à Fred Aubert cette saison lors des matchs à domicile du Stade Briochin. Comment vous jugez, ou en tout cas à quel niveau vous mettez Quevilly-Rouen, que vous venez d'affronter et qui pour le coup a fait le trou désormais avec cette troisième place? Est-ce qu'ils sont à cette place logiquement, ou est-ce que ça vous surprend par rapport aux autres équipes que vous avez pu affronter comme Bastia ou le Red Star?
Franchement, sur les équipes qu'on a jouées depuis le début de saison, il y a vraiment le Red Star qui pour moi m'avait fait une forte impression, où on voyait vraiment que c'était vraiment rodé. Après Bastia, qui a des individualités très fortes. Mais là, avec l'absence de Young et puis d'Adoun ce week-end, je pense que ça redevient une équipe du championnat comme tout le monde. Et sans ces deux atouts-là, c'est pour ça aussi que c'est frustrant de ne pas avoir fait un résultat, parce que je pense qu'il y avait l'opportunité. Mais ça m'a pas impressionné ce week-end, cette équipe de Quevilly-Rouen.
Ouais, il manquait Andrew Young et Otman Dadoun, qui à eux deux ont marqué 30 des 43 buts de QRM. C'est les trois quarts, ce sont pour ces deux joueurs-là de Quevilly-Rouen Métropole. On parlait de cette troisième place, si jamais il y avait une super fin de saison pour Saint-Brieuc. Et d'un autre côté, on sait qu'en Ligue 2, juste au-dessus, il y a cette perspective de peut-être jouer un derby aussi en barrage. Est-ce qu'on pense à tout cela? Est-ce que comment on se met dans les têtes? Comment que ça se passe? On se dit, il y a peut-être l'opportunité de marquer un grand coup dans le football costa-mauricain.
Ouais, c'est sûr qu'on en parle entre nous, sachant qu'en plus dans le vestiaire je suis à côté de Christophe Cabral, donc c'est vrai que on en parle. Après c'est plus dans le côté où on sent qu'il y a un mal-être dans le club à Guingamp, et que c'est plus ça qui nous attriste, parce que Christophe est attaché au club de Guingamp. Je pense qu'il faut déjà s'occuper de nous avant de s'occuper de Guingamp. S'il y a l'opportunité d'avoir deux clubs en Ligue 2 l'année prochaine de Côte d'Armor, on va pas le cracher dessus. Nous on se concentre surtout sur nous. Je pense que l'erreur, ce serait justement de regarder un petit peu trop Guingamp et de voir les résultats. Déjà nous on finit notre saison, et en essayant d'aller chercher le plus haut possible, et puis après on verra s'il y a un match de barrage à jouer contre Guingamp, ce sera une super affiche pour le foot costa-mauricain. Sans supporters, c'est ça qui est dommage, pour l'instant, nous, on se concentre sur nous et pas forcément trop sur ce que fait Guingamp.
Vous imaginez, Gaëtan, on ferait un avant-match de 2 heures sur Radio Bonheur, on serait en direct.
Ce serait le grand jeu.
De 17h à minuit, incroyable.
Au minimum. Oui, en attendant, il y a ce match
aller-retour.
Au Star.
Hein.
Ouais, le barrage, ce sera un aller-retour. On verra qui y sera, mais oui, on peut avoir cette affiche là. Pour cela, il faudra que James vous remettiez les bouchées doubles comme au match aller, parce que c'est vous qui aviez marqué le but de la victoire contre le Red Star.
Ouais, j'avais marqué le seul but pour l'instant dans mon actif de la saison. J'avais aussi concédé un carton rouge contre cette équipe de Red Star, mais moi je suis suspendu pour samedi. J'ai pris 3 jaunes, donc je suis suspendu, donc je ne ferai pas du déplacement à Bauer, donc je compte sur les gars et sur le retour de Christophe pour peut-être lui marquer ce but ou un autre, mais j'espère que les gars vont être solides et aller chercher au minimum un point.
Ça s'annonce en tout cas palpitant pour le Stade Briochin dans cette fin de saison de National. Merci beaucoup James Lemarère d'être venu avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci à vous, pas de soucis.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Bonsoir. C'est vrai que forcément, quand on s'intéresse au foot et qu'on est costa-mauricain, on pense à cette possibilité qui pourrait surgir en fin de saison. Oui. Hein. Effectivement, un barrage entre Guingamp. pour éviter de descendre, et Saint-Brieuc qui aimerait bien revenir en Ligue 2.
Voilà, c'est une des possibilités. Alors,
on aura le barrage de Lorient aussi.
Voilà, Lorient
c'est possible.
Ligue 1 contre peut-être une équipe de Ligue 2, c'est aussi une possibilité. On fera des prolongations sur Radio Bonheur cette saison, dans la saison, avec les barrages peut-être de part et d'autre. Alors si ce n'est pas, si Guingamp est en barrage, ça peut aussi être contre une autre équipe bretonne, parce qu'il y a Concarneau qui est dans le coup, et Concarneau qui a deux matchs de retard pour le coup, donc peut-être des points aussi supplémentaires à gratter. Concarneau qui a été battu sur sa pelouse samedi soir contre Bourg-en-Bresse. Perronan, on va écouter la réaction de l'entraîneur concarnois Stéphane Le Mignon, qui analyse dans les grandes lignes ce match face à Bourg.
Je suis content quand même du match, du contenu, parce que je trouve qu'on a quand même essayé de les gêner. On a réussi à les gêner, je pense, mais on n'a pas eu la réussite peut-être qui a fait tourner le match. Au pire, ça aurait dû finir par un match nul.
Ouais,
et je pense qu'au point, on méritait un peu plus.
Ouais, ils méritaient un peu plus, les Concarnois, surtout que ils avaient eu un face-à-face en première mi-temps. Ils ont eu un gros temps fort aussi en deuxième période, sans qu'il y ait beaucoup d'occasions, mais une grosse pression sur le but bressan. Et Stéphane Le Mignon d'ailleurs revient sur ce point regrettable de concéder l'ouverture du score juste après ce temps fort.
Dans l'ensemble, la deuxième mi-temps, on était dominateurs, mais ça n'a pas suffi. Puis sur une transition, on n'est pas, je sais pas, faut revoir le but, mais on encaisse ce but. Bon, c'est le scénario qui arrive en national. Des fois, c'était en notre faveur, là, c'est pas en notre faveur. Voilà, vite se pencher sur le match de Boulogne, qui pareil, va être difficile.
Mais... Ouais, mais Concarneau qui reste quand même dans la course.
Eh oui, Concarneau qui
pour la troisième place.
D'ailleurs, rattrapera l'un de ses deux matchs en retard dès demain soir contre Boulogne-sur-Mer, l'actuelle lanterne rouge de National, qui pour le coup a beaucoup aussi de matchs de retard. 4 pour les Boulonnais qui n'ont pas joué ce week-end à Créteil à cause de la Covid-19. Mais pour Concarneau, c'est peut-être l'opportunité de passer sur la troisième place du podium, et donc celle de barragiste. Voilà pour le chapitre National, et juste après la pub, on passera sur le National 3, parce que là, c'est terminé.
C'est la dernière fois qu'on va en parler, effectivement. L'arrêt a été acté la semaine dernière, me semble-t-il, de tous les championnats à partir du National 3. Décision encore en suspens pour le National 2 et la D2 féminine. On aura avec nous l'entraîneur de Dinan Léon, Stéphane Lamant, pour revenir sur l'arrêt de ces compétitions.
C'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on n'a pas le droit d'être bien assuré. Alors oui, j'ai choisi La Massive parce que je veux le meilleur au meilleur prix. Parce que je veux le meilleur au meilleur prix, je vote.
Du 22 mars au 16 avril, votez pour vos délégués massifs et Apivia Massif Mutuel sur jevote.massif.fr. Parce qu'il n'y a pas de nous sans vous. Massif, entreprise régie par le Code des assurances. Apivia Massif Mutuel, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la mutualité adhérente à la mutualité française.
Leclerc.
Ah ouais, toi et tes ados, vous faites encore la chasse aux œufs.
Bah Pâques, c'est Pâques. Et du 23 mars au 3 avril, pour l'achat d'une boîte chasse aux œufs Smarties de 122 grammes, il y a 68% de réduction sur la deuxième. Ça fait 5,87€ les deux boîtes.
C'est vrai que c'est cool la chasse aux œufs.
Bah viens.
T'es sûr, je peux? Je prends deux boîtes alors?
Plutôt quatre.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 24,06€ le kilo, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
BMW. Si je vous parle des occasions éphémères BMW, vous voudrez en savoir plus. Alors je vous dirai que c'est 3 ans d'entretien offert, 3 ans de garantie et un financement sur mesure sur une large sélection de voitures certifiées BMW Premium Selection. Les occasions éphémères BMW, c'est jusqu'au 31 mars seulement.
Offre valable pour toute commande d'une BMW d'occasion certifiée BMW Premium Selection hors M dans les concessions participantes jusqu'au 31 mars 2021. Nos concessions en zone de confinement vous accueillent sur rendez-vous. Détails sur bmw.fr.
Baisse de tonus, fatigue? Manae, marque experte des besoins des femmes, innove avec Manae Énergie et Défense. Une formule dédiée aux femmes, associant vitamines, minéraux et plantes pour soutenir votre vitalité au quotidien. Retrouvez Manae en pharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, bougez plus.
Ceci, c'est le son du colis Amazon qui fait le bonheur de Chloé.
Waouh, trop cool ce potager d'intérieur!
Mais il fera aussi le bonheur de Romain, le cofondateur de l'entreprise qui produit ce potager en France.
Bonne nouvelle, on a 4 commandes de plus!
Oui, parce que plus de la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent de petites et moyennes entreprises.
Ce n'est pas du luxe de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien dans sa peau. Non, ce n'est pas du luxe. Pourtant,
4 Français sur 10 ont déjà renoncé à acheter des produits d'hygiène faute de moyens.
Leclerc lance les basiques de la salle de bain pour toutes et tous à 7,75 € et les protections hygiéniques à 2,25 €. Le tout pour un usage d'un mois minimum. Et ceci n'est pas une promotion.
Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous.
Offre valable en magasin et drive hors Drumcom. Produit concerné sur www.lesbasiques.leclerc.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Alors Julie, vous n'êtes pas sur le marché ce matin ?
On a perdu toute la marchandise qu'on stockait.
Et quand on est commerçant itinérant,
perdre sa marchandise,
c'est mettre son activité en péril.
Oui, je comprends. C'est pour ça que chez Groupama, nous assurons votre marchandise à votre domicile, dans votre camionnette et sur votre étal. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Allez, les déchaînés du football ce soir sur Radio Bonheur. Un petit mot sur ce championnat donc de 5e division et, oui. Sur les championnats inférieurs qui sont donc stoppés définitivement. Oui, plus de National 3 ni de championnat inférieur.
Exactement, National 3 et en dessous. Il reste la question du National 2 qui a été mis en suspens, tout comme la 2e division féminine d'ailleurs. C'est pas encore catégorique pour ce qui concerne ces deux championnats-là. D'ailleurs, ça a créé une petite colère hein, de certains clubs qui se sentent un peu lésés, notamment Belfort dans l'Est de la France qui montrait sa colère parce qu'ils ne savent pas s'ils vont reprendre, donc s'ils doivent continuer à s'entraîner ou si ça va s'arrêter, s'ils doivent préparer la saison à venir. Il n'y a vraiment aucune perspective pour ces clubs de National 2. C'est beaucoup plus clair pour le National 3 et notamment pour Dinan Léon. Là, la saison est terminée. C'est vrai que c'est un peu dommage pour Dinan qui était bien parti dans ce championnat.
C'est surtout dommage pour la JSI Pontivy qui était leader, exactement. Avec 18 points, 4 points d'avance sur Rennes B, 5 sur Vitré et 6 effectivement sur Dinan Léon qui était dans le bon wagon. 4e avec 12 points, égalité avec la Mélisac Saint-Pierre. À la 6e place, on avait la réserve du stade Briochin. On avait ensuite Locminé, Brest B, Guy Primessac, Plouzané, Lannion. Par contre, il y en a qui peuvent respirer. C'est Fougères, le stade Pontivien et Rennes Tour d'Auvergne qui, ouais, eux, étaient relégables et qui, du coup, vont se sauver.
Eh oui, c'est ça.
Parce que, du coup, il n'y a ni montée ni relégation.
Oui, donc forcément que ça va faire le bonheur de ces clubs-là qui vont continuer l'aventure en N3 l'année prochaine. Mais on n'arrive pas à joindre notre ami Stéphane Lamand.
Ça alors.
Bon, non. Peut-être qu'on ne l'aura pas.
Il était au courant
hier. Soir.
Hein. Mais bon, on lui a envoyé aussi un petit SMS. On va voir. Il reste 4 instant, minutes. De toute façon. Ouais. On aura le temps d'ici la fin de saison de parler rapidement du National 3. Mais oui, c'est vrai que ça fait... il vient de m'envoyer un petit signal, Dominique, si vous voulez le rappeler. C'est vrai que ça fait 2 ans de suite hein, maintenant que les championnats sont arrêtés. Alors cette saison, c'est vrai que c'est dommage surtout pour la JSI Pontivy qui était vraiment très très bien partie avec 6 victoires en 6 matchs. Mais bon, ça s'est arrêté, je crois, en octobre. Donc, voilà, ils n'ont pas pu aller très, très loin dans ce championnat. Stéphane Lamand est avec nous. Bonsoir, Stéphane.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, dites-nous quel est votre état d'esprit maintenant, presque une semaine après l'annonce, en tout cas l'officialisation de l'arrêt de votre championnat de National 3.
Oui, on va parler d'officialisation, puisque l'annonce, elle était plus ou moins dans l'air depuis... Depuis un petit bout de temps, donc voilà, on avait eu le temps de digérer un petit peu. Le plus dur a été l'élimination de la Coupe de France, puisqu'après, plus ou moins, on savait que ça serait terminé. Donc voilà, on n'attendait plus que l'officialisation qui est arrivée. Donc on va essayer de préparer le plus sereinement possible, et c'est un doux euphémisme la saison prochaine.
Comment vous avez accueilli cette annonce, enfin, c'est du regret, de la déception, de l'abattement, de l'impuissance? Quels sont les sentiments qui vous traversent aujourd'hui?
Un sentiment, c'est de la déception, ou on va dire de la frustration. Après, on se doute bien qu'au vu de l'état actuel du pays au niveau économique et puis au niveau de la pandémie, on peut pas se plaindre non plus, sanitaire, donc voilà, on peut pas crier au scandale non plus, c'est que du foot malgré tout. C'est la deuxième année, donc ça veut dire qu'on vient de faire deux petits bouts de saison, enfin une demi et puis un tiers à peine, même pas, Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est l'accumulation et c'est une deuxième année d'affilée. Donc on a des joueurs qui sont un peu dans la nature, à droite et à gauche, les dirigeants, les supporters, enfin tout le monde est un peu à droite et à gauche, on ne sait pas trop où se situer aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est compliqué.
Et oui, justement, vous parliez de la préparation de l'année prochaine. Comment se projeter déjà sur les contours de l'effectif, sur une éventuelle reprise, espérons-le, en juillet-août? Comment vous travaillez déjà là-dessus?
C'est difficile, puisque quand on rencontre nos joueurs, ils nous disent on n'est même pas sûr de repartir. Donc, grosso modo, une année, l'année dernière, on n'avait pas senti du tout ça. Là, la deuxième année, on sent plus quand même dans les discours des joueurs que... wait and see, quoi. On verra bien ce qui va se passer. Pas la peine d'aller trop vite non plus. Pas la peine de faire du plan sur la comète. Donc, on essaie, tant bien que mal, d'avoir leur ressenti. Hypothèse, ça repart. Est-ce que c'est du voyage ou pas? Enfin, voilà, c'est difficile de vraiment caler et ancrer des choses. Et encore, ça, c'est avec les autres. Mais contacter des joueurs extérieurs dans la situation actuelle, dès qu'on arrive sur l'aspect professionnel, etc., c'est compliqué de s'engager, de trouver un job ou quoi que ce soit. Parce que on sait très bien que ça va être compliqué, quoi.
Dernière question, Stéphane Lamant. Vous sentez de l'abattement chez les joueurs?
L'abattement, est-ce qu'on peut dire le mot abattement? Non, je sais pas, parce que bon, là, les beaux jours arrivent, ils sont en train de réclamer des séances à droite et à gauche, là, quand on pourra se retrouver. Donc, ils ont toujours envie de jouer au foot. Donc, non, ils sont
vous allez quand même vous entraîner un petit peu?
Ouais, on garde une séance le week-end en général. Le soir, on peut plus, même si là, ils ont reculé un peu le couvre-feu. Mais bon, c'est trop juste pour nous. Donc, on peut s'entraîner que le week-end. Donc, on garde une séance, on va dire, ludique, sympathique, cordiale. Voilà, où on se retrouve. Et puis, c'est surtout pour se voir, en fait, et passer un moment ensemble plus qu'autre chose. Mais on en profite pour toucher un petit peu le ballon. Donc, on garde ça une fois dans le week-end. Aux horaires autorisés et puis voilà. Mais donc non, il n'y a pas d'abattement aujourd'hui, il y a un petit contact, mais les beaux jours arrivent, c'est là où on a envie de jouer au foot, c'est là où on aime bien jouer le soir à 18h quand il fait beau, qu'il y a du monde. Voilà, c'est ces moments là qui vont être durs à passer, et parce qu'on ne sait pas si derrière maintenant on a une visibilité sur le fait que ça peut se reproduire chaque année, en fait, hein. Donc autant l'année dernière on s'est dit voilà, c'est arrivé une fois, c'est exceptionnel, c'est bon, on passe à autre chose. Notamment avec le mois de mai-juin où on avait été déconfiné. Mais là, plus personne n'a dit ça. Et tout le monde s'est dit qu'on n'est même pas sûr de reprendre cet été, ou si on reprend, combien de temps ça va durer. Donc, le côté alarmiste un petit peu et puis anxieux de cette situation-là. Ouais.
Bon courage, Stéphane Lamant. À bientôt sur Radio Bonheur.
Merci. Merci à vous.
Bonne soirée.
Bonsoir. À très bientôt.
Merci
au revoir.
Beaucoup. Merci, bonsoir. Radio Bonheur, il est 20h, 20h et 2 minutes précisément. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des déchaînés du football après les infos. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Des soignants qui craignent de devoir trier les malades, un niveau de contamination qui ne cesse de croître ces dernières semaines et un gouvernement qui devra peut-être prendre de nouvelles restrictions sanitaires. Voilà le contexte très difficile qui règne en France ce lundi, à 2 jours d'un conseil de défense qui pourrait être décisif. Les derniers chiffres des autorités sanitaires franchissent ce lundi soir un cap difficile. Le nombre de patients actuellement pris en charge au sein des services de réanimation a dépassé le plus haut seuil relevé lors de la deuxième vague. 4974 patients souffrant d'une forme grave de la maladie sont en effet pris en charge au sein de ces services spécialisés, contre 4903 le 8 novembre dernier, pic de la deuxième vague. Plus globalement, 28 322 malades du Covid-19 sont actuellement soignés à l'hôpital. Les autorités sanitaires ont par ailleurs recensé 362 nouveaux décès ces dernières 24 heures. Sur le plan de la vaccination, la France a passé le cap des 10 millions d'injections. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, vendredi dernier. Au total, hier, 7 798 091 Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Le vaccin contre la Covid-19 du laboratoire américain Johnson & Johnson sera livré en Europe à partir du 19 avril prochain. Ce vaccin a été mi-mars, le quatrième à obtenir le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Pour permettre d'augmenter sa production et de répondre à la demande, Johnson & Johnson a passé ces derniers mois plusieurs accords avec des laboratoires et des sous-traitants en Europe. Il s'agit de Sanofi en France, de Catalent en Italie et d'IDT Biologica en Allemagne. Les laboratoires Servier ont été condamnés à 2,7 millions d'euros d'amende pour tromperies aggravées et homicides et blessures involontaires dans le scandale sanitaire de leur médicament Mediator, tenu pour responsable de plusieurs centaines de décès. Les laboratoires ont en revanche été relaxés des faits d'escroquerie. Jean-Philippe Seta, l'ex numéro 2 du groupe pharmaceutique, a lui été condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Belle fin de journée à tous.
Déchaîner du football ce soir sur Radio Bonheur. On le sait, les clubs pro n'ont pas joué, donc Guingamp n'a pas joué.
Non.
Ce week-end, on va quand même parler de l'actualité.
Guingamp n'a pas fait match nul.
Ouais, voilà.
Ni perdu, rien du tout. Un petit mot quand même sur ce club qui jouera quand même le week-end prochain. Ce sera samedi soir, hein, samedi à 20h, c'est ça ?
Oui.
Déplacement périlleux à Troyes avant de recevoir Toulouse. Deux matchs difficiles pour les Guingampais, mais on sait que Guingamp est capable de battre n'importe quelle équipe, même si ça n'arrive pas tous les jours.
Eh oui, ça peut arriver à tout moment quand même, on sait jamais. Avec Guingamp, ce qui peut se passer, pas de match ce week-end. Et donc on s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un quiz sur Radio Bonheur, mais alors comment on peut innover ? Eh bien, un auditeur, et en l'occurrence David, qui est avec nous, va défier le sacré Pierre-Henri Dufay. Bonsoir David.
Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors on met un peu la pression à Pierre en lui disant que c'est une encyclopédie, ouais. Puis hop, il va être battu.
Ah oui, il va vite redescendre. Hein.
Vous êtes où, David ? Dans quelle ville ?
À Quimper.
À Quimper. Et vous êtes fan de Guingamp ? Vous connaissez bien Guingamp alors ?
Depuis 20 ans que je les suis, ouais.
D'accord. Quimper, ouais. Il joue en quelle division, Quimper ?
Quimper, ils sont dans quasiment district là.
Ah oui. Même pas en national.
Non,
ils sont pas en grande forme.
Ouais, je me souviens de Quimper en Ligue 2, longtemps. Ouais. Quimper a joué
l'une des pires défaites de Guingamp. Je crois que la pire défaite de Guingamp en Ligue 2, c'est lors d'un Quimper-Guingamp dans les années 80. 7-0, c'est ça.
Ouais. À l'époque, il y avait encore deux D2.
Ah oui, deux groupes de 2-2. Ce soir, il n'y aura pas deux, mais trois manches pour ce quiz Guingamp sur Radio Bonheur. Une première manche où vous allez devoir choisir un thème parmi trois proposés. Une deuxième manche avec un c'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faudra donner des réponses par rapport à un thème donné et on vous dira si les réponses sont bonnes ou non. Et puis enfin, une manche de rapidité pour terminer ce quiz. On va commencer par la manche numéro 1. Donc, honneur à notre invité, à David, qui va devoir choisir un thème sur lequel il faudra répondre à 5 questions. Voici les thèmes pour vous, David. La Ligue 1, Jocelyn Gourvennec ou les années 2000. Quel thème choisissez-vous ?
La Ligue 1.
Allez, c'est parti alors pour la Ligue 1. Et Pierre aura le choix entre les deux thèmes restants pour sa partie. On commence ce quiz avec vous, David. 5 questions, 2 points par bonne réponse. Thème La Ligue 1. Première question, quelle est la plus large victoire d'en avant en Ligue 1 dans son histoire ?
Compliqué.
C'est pas très vieux.
Est-ce qu'il y a un petit chrono là ? Parce que.
Oui,
ouais, on va dire 10-15 secondes.
Hein. Oui, on le fait à peu près.
Je suis très à cheval sur le règlement.
Dijon 2017-4-0.
Eh bien, mauvaise réponse.
Est-ce que je peux le dire ?
Oui.
Parce que peut-être que ça sera la seule que j'aurai. Ne serait-ce pas le 5-0 contre Bastia 2017 ?
Exactement, c'était la victoire 5-0 contre Bastia, saison 2016-2017, et donc en début d'année 2017. Deuxième question pour vous.
Vous tenez les compteurs, hein, Gaëtan.
Oui, je note les scores en même temps. Bah là, pour l'instant, ça reste à 0, donc ça va, je suis pas trop perdu. Qui est le meilleur buteur du club en Ligue 1, le meilleur buteur de Guingamp en Ligue 1 dans son histoire?
Je dirais
Guivarch. Non, lui c'est je crois le meilleur buteur en Ligue 2, mais en Ligue 1 ce n'est pas Stéphane Guivarch, c'est Jimmy Briand avec 30 buts, qui devance d'ailleurs Stéphane Carnot, qui avait devancé Stéphane Carnot sur ses derniers matchs avec en avant. Troisième question, David, dans ce quiz: quel entraîneur a dirigé le plus de matchs de Guingamp en Ligue 1?
Il y en a deux.
Le doute entre deux.
Ouais, même moi je. Ah oui, je pense.
Alors, j'ai pas entendu, redite.
Gourvennec.
Gourvennec, très bonne réponse avec 139 matchs. Bravo. Il est suivi d'assez près par Francis Merici, 110. Mais c'est bien Jocelyn Gourvennec qui est en tête dans ce classement. Les deux premiers points marqués donc par David. Quatrième question, celle-là un peu plus dure. On va élever un petit peu le niveau sur celle-là. Qui fut le premier Guingampais à inscrire un triplé en Ligue 1? Celle-là, elle est plus dure, mais il n'y en a pas beaucoup à l'avoir fait, donc peut-être que vous l'aurez. Ça remonte un petit peu.
Il n'y en a que deux, hein, Gaëtan, qui ont fait un triplé.
De mémoire, il n'y en a que deux, oui.
Peut-être
que Pierre a la réponse.
Carnot?
Non, c'était pas Stéphane Carnot. Est-ce que Pierre avait la réponse?
Je mettrais une sesterce sur Dagano.
Exactement, Moumouni Dagano contre Strasbourg en 2004. Et quelques semaines après, un mois après, je crois, il y avait eu Jérôme Leroy contre Montpellier. Et ce sont les deux seuls triplés de Guingamp en Ligue 1. Cinquième et dernière question pour cette première manche avec David. Combien de fois Guingamp a terminé dans la première moitié de tableau en Ligue 1? Et attention, il y a un petit piège.
De premier à dixième.
Eh ben justement, il va falloir.
C'est exactement la question.
Ah oui, parce qu'il y a peut-être dixième sur une Ligue 1 à 18.
Ouais, je dirais
3. Moi, je réclame une précision de Gaëtan.
Eh bien, c'était. Ben oui, il y avait le piège, il est là. Parce qu'il y a des saisons à 18 et des saisons à 20 clubs pour Guingamp en Ligue 1. Vous avez dit 3, c'est ça, David?
Oui.
Oui, c'était 4, justement. 1995-1996, saison à 20 clubs. 2002-2003, 2014-2015 et 2016-2017. Le piège, c'était la saison 95-96, parce que Guingamp avait fini 10e. Sauf que là, la première moitié de tableau s'arrêtait à la 9e place, championnat à 18, cette saison-là. Mais la réponse.
C'est bon alors, du coup.
Était... Non, parce que c'est 4 fois. Ça aurait été 5 si on avait compté celle-là. Mais David 96,
c'était 96-97 où il y avait
16-17 ou 95-16, l'un ou l'autre, de mémoire.
D'accord.
Donc ça fait 2 points en tout cas pour David sur cette première manche. 2 points avec la bonne réponse sur Jocelyn Gourvennec. En parlant de l'ancien entraîneur de Guingamp, c'est l'un des deux thèmes que peut choisir Pierre. Les deux thèmes restants,
non, moi je vais prendre
Jocelyn Gourvennec ou les années 2000. Ce sera donc
années 2000, je vous prie.
Les années 2000. J'étais sûr, et je crois que c'est le thème le plus dur en plus. On va voir vos connaissances.
Allez-y, mon petit gars.
Vous testez, mon cher Pierre. Première question donc pour vous sur cette manche des années 2000. Quel est le meilleur classement de Guingamp en Ligue 2 au cours des années 2000?
Alors que je me concentre, parce que 99-2000, ça compte pas. Hein.
Normalement, si.
Ah, bah c'est celle-là alors. C'est deuxième.
Eh oui, c'était deuxième, exactement. Parce que c'était le petit piège aussi. Parce que la deuxième place, 2000, la décennie commençait là pour en avant. Et donc, c'est la deuxième place. 2 points. Sur la première question. Là, on va faire une beaucoup plus difficile, mais je sais que vous avez une mémoire folle. Pierre, en 2004-2005, Coco Michel, l'emblématique, avait arrêté sa carrière contre Grenoble. Mais pour sa dernière, à Roudourou, donc, par qui avait-il été remplacé en toute fin de match?
Attendez. Ne serait-ce pas Christophe Leroux?
Excellente réponse, excellent. Alors là, j'étais pas sûr que vous l'auriez, celle-là. Bien joué avec Christophe.
Alors je remercie les membres du COP Rouge ou de la New School Guingamp qui à l'époque avaient fait un DVD retraçant la dernière soirée de Coco Michel et ils avaient mis le changement. Donc c'est ça qui m'a aidé à trouver.
Toute compétition confondue. Troisième question donc. Combien de buts Didier Drogba a-t-il marqué à l'EAG?
Ouh là là là. Alors attendez, il en met 17 en Ligue 1, il en met 3 en Coupe de France, il met un triplé. Et l'année d'avant, c'est là que je vais me tromper. Parce que je sais plus s'il en met 2 ou 3. Il en met 1 à Metz, il en met 1 à Montpellier. Je vais dire 22.
Mauvaise réponse, c'était 24. Il en a marqué 20 en Ligue 1 et 4 en Coupe de France. Il y a eu un triplé contre
Cessinet-Parisais
et un but contre Anglais.
Oui, et donc il en met 3 sur sa première.
C'était dur quand même, hein. Le nombre précis, le chiffre
juste. Elle était dure celle-là. Mais ouais.
Il en met 3 sur sa première partie de saison à Guingamp, c'est ça?
Oui, c'est ça. D'accord. Exact. Dont à Metz pour son premier match.
Ah, il marque à Lens, je crois.
Il marque à Lens. Exactement. Ça fait 24 au total pour Didier Drogba. Celle-là, elle était assez difficile. Quatrième plutôt question. 2006-2007. Là, c'était de la Ligue 2.
Oui, aïe, aïe.
Guingamp avait remporté. Oui, mais il y avait eu une éclaircie dans cette saison. C'est le derby remporté 3-2 à Brest. Alors que Guingamp était mené 2-0. Ce soir-là. Alors, je vais même pas dire tous les éléments de la question parce que ça va, vous allez trouver tout de suite, je pense. Mais quel Brestois avait ouvert le score, Pierre?
Et était-ce un Brestois qui avait joué à Guingamp après?
Ben, c'était justement la suite de la question. Je l'ai enlevé exprès.
Cédric Liabeuf,
exactement. Qui avait signé à Guingamp 3 ou 4 mois plus tard, après avoir marqué contre Guingamp. Mais c'est bien Guingamp.
Je me souviens avoir écouté ce match sur Radio Bonheur. Ouais, il y avait Hervé qui était à Francis Leblé.
C'était de la folie.
C'était épique.
Et c'était de la folie, ouais.
Un doublé de Chérény, un but de Rivière, qui avait été expulsé d'ailleurs en fin de match, Johan Rivière, mais un match complètement
fou. Ça avait été difficile aussi avec les supporters, hein. Je me souviens que la sortie avait été compliquée pour les journalistes, même pour Hervé à l'époque, c'était difficile de sortir du stade sans prendre,
fallait pas être
sans prendre un siège, une tomate ou autre chose.
Cinquième question pour vous, Pierre. Vous avez 6 points jusqu'à présent avec 3 bonnes réponses sur 4 questions. 2008-2009, là, une saison bien meilleure pour Guingamp, surtout en Coupe de France, parce que Guingamp avait remporté sa première Coupe de France. Quel est le meilleur buteur guingampais de la compétition et avec combien de buts cette saison-là?
On a perdu Pierre.
Je vous le disais aussi, la latence était longue pour sa réponse. On va le retrouver dans un instant. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs, David, en attendant, en bonus pour voir.
Peut-être que je dirais Eduardo.
Oui, avec combien de buts?
Je suis là.
Hop là, alors on ne dit plus, on ne répond plus.
Alors, attendez, j'ai entendu la question. Alors, le meilleur buteur de la Coupe de France, vous dites.
En 2008-2009 pour Guingamp, oui.
Donc c'est Eduardo, mais alors attendez, parce qu'il en marque un ou deux à Saint-Omer. Il en marque deux, je crois, à Saint-Omer. Ensuite, il y a qui? Il y a Brest, il ne marque pas. Le Mans, il ne marque pas. Sedan, il en met deux. Donc ça fait 4. Toulouse, 1. Je dirais 7.
Excellente réponse, 2 buts. Et oui, le petit piège, enfin pour ma part, parce que Saint-Omer, j'avais un doute que ce soit lui qui
ait mis
2.
Je sais plus si c'était lui ou Rivière.
Et c'était bien lui. Ouais. J'avais le doute avec Rivière, mais c'est bien Eduardo. 7 buts, donc le meilleur buteur guingampais de cette Coupe de France 2009. À l'issue de la première manche, les scores: David 2, Pierre 8. Il y a un petit écart qui s'est fait, mais rien n'est terminé.
Il reste 2 manches.
Il reste 2 manches. Et oui, plus peut-être un bonus s'il y a besoin de vous départager à la fin.
Et bien sûr. Toujours la question à 16 points à la fin.
La deuxième manche, c'est un c'est bon, c'est pas bon. Vous connaissez le principe. On va vous donner un thème et vous allez devoir nous citer des joueurs, en l'occurrence, et on vous dira si c'est bon ou non. Il va falloir nous citer tous les buteurs, en tout cas un maximum de buteurs de Guingamp en Coupe de la Ligue. Compétition qui n'existe plus.
Oula.
Mais citez-nous les joueurs, les buteurs de Guingamp en Coupe de la Ligue. David, à vous l'honneur.
On va mettre le dernier, ça va être le dernier en... Avant la finale, c'était Thuram.
Marcus Thuram, c'est bon.
Alexandre Mendy.
Alexandre Mendy, c'est bon aussi.
Yannick Bakoto.
Yannick Bakoto, c'est très bon aussi.
Alors, c'est toute l'histoire de la Coupe de la Ligue, hein.
Bien sûr.
Je vais mettre votre préféré, Arnaud Gonzalez.
Ah, le fameux Arnaud Gonzalez. C'est bon aussi, meilleur buteur de la compétition d'ailleurs en 2006, avec 3 buts. Meilleur buteur, tout club confondu, hein. C'était sacré palmarès.
Il y a eu le ballon d'or l'année là.
C'est ça, à vous David.
Les tireurs de pénalty, ça compte?
Non, par contre, ce sont les buts dans le match, hein. Mais il peut y en avoir qui ont marqué des tirs au but et qui ont marqué aussi dans le match, bien sûr.
Je dirais Yaya Tabaré.
Lequel?
Oui. Gaëtan, alors. Non, c'est bon.
On va le compter bon, mais c'est bien Moustapha qui avait marqué. C'est bon.
Le dernier buteur tout court ne serait-il pas Nolan Roux?
Oui, exactement. Nolan Roux, dernier buteur à Orléans.
Je savais bien que ce match allait me servir positivement un jour. Et quelle horreur ce match!
Il n'a pas mis beaucoup pourtant, Nolan.
Beauvus.
Claudio Beauvus, c'est bon aussi.
Malouda.
Malouda, bonne réponse. Pour Pierre,
David. Mandane.
Mandane, très bon également.
Cyril Vatier.
Cyril Vatier, celui-là, fallait le trouver, c'est bon pour Pierre.
C'est quoi, ça devient un peu compliqué. Peut-être Rivière.
Johan Rivière, c'est une bonne réponse également pour vous, David. À Pierre.
On continue avec les vainqueurs de 2009, Seine.
Badara Seine également, oh. Buteur. C'était contre Saint-Étienne, c'est bon. David.
Scarpelli.
Mathieu Scarpelli, que je vérifie. Non, Scarpelli, c'est pas bon.
C'est le buteur bon, qui ne marquait pas, Scarpelli.
Il avait marqué beaucoup en National, mais en Ligue 2, il n'est pas marqué. Il a marqué en Coupe de France, par contre, mais pas en Coupe de la Ligue. Pierre, est-ce que vous en avez d'autres? Allez, on va vous laisser en citer un dernier.
J'en ai 6 encore. Bacilla.
Oui. Christian Bacilla, c'est bon, ça fera un point de plus. C'était un point, évidemment, par bonne réponse pour toutes ces questions. Ça fait sur
bravo, David, on est allé quand même assez loin.
Oui, 7-6. 7-6 pour Pierre sur cette manche-là. Et donc, récapitulatif des scores, ça fait 15-8 pour Pierre. Mais il reste la dernière manche qui arrivera dans un instant. Petite page de pub avant cela et on se retrouve pour la finale du quiz.
Apprenti cuistot, devenez de vrais cordons bleus grâce à un robot multifonction. Bricolo dans l'âme, devenez un pro de la déco avec votre nouvelle perceuse visseuse. Oh, joli le jardin. Pratique le tailleur sans fil. Votre passion ne devrait pas coûter un bras. Jusqu'à moins 70% sur une sélection d'articles incroyables. AliExpress, émerveillez-vous. Offre anniversaire du 29 mars 9h au 3 avril 9h. Conditions sur AliExpress.com.
Ce n'est pas du luxe de se brosser les dents, de prendre une douche, de se sentir bien dans sa peau. Non, ce n'est pas du luxe. Pourtant, 4 Français sur 10 ont déjà renoncé à acheter des produits d'hygiène faute de moyens.
Leclerc lance les basiques de la salle de bain pour toutes et tous à 7,75€ et les protections hygiéniques à 2,25€. Le tout pour un usage d'un mois minimum. Et ceci n'est pas une promotion.
Leclerc, défendre tout ce qui compte pour vous.
Offre valable en magasin et drive hors Drumcom. Produits concernés sur www.lesbasiques.leclerc.
Excusez-moi, quelqu'un peut m'aider? Je suis salarié d'une petite entreprise. Je viens de commencer et... Qui peut me parler de mes droits et de mon salaire? Qui me représente? Qui négocie ma convention collective? Où? Bah, y a personne pour me répondre.
Employé à domicile ou salarié d'une entreprise de moins de 11 personnes, ne restez plus seul avec vos questions. Du 22 mars au 6 avril, votez à l'élection syndicale TPE. Rendez-vous sur élections-tpe.travail.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Prêt à chercher des œufs Kinder? À partager des Raffaello, des Ferrero Rocher et des biscuits de l'Acre?
Oh oui!
Je parlais aux enfants. Pâques, c'est pour les enfants.
Et ceux qui ont su le rester.
Pour un pack gourmand, Kinder, Ferrero Rocher, Raffaello et de l'Acre vous attendent en magasin, en drive et en livraison sur Uber Eats et Deliveroo. Pâques, ensemble, autrement. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
Ceci, c'est le son du colis Amazon qui fait le bonheur de Chloé.
Waouh, trop cool ce potager d'intérieur!
Mais il fera aussi le bonheur de Romain, le cofondateur de l'entreprise qui produit ce potager en France.
Bonne nouvelle, on a 4 commandes de plus!
Oui, parce que plus de la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent de petites et moyennes entreprises.
Leclerc.
Ah ouais, toi et tes ados, vous faites encore la chasse aux œufs.
Bah, Pâques, c'est Pâques. Et du 23 mars au 3 avril, pour l'achat d'une boîte chasse aux œufs Smarties de 122 grammes, il y a 68% de réduction sur la deuxième. Ça fait 5,87€ les deux boîtes.
C'est vrai que c'est cool, la chasse aux œufs.
Bah, viens.
T'es sûr, je peux? Je prends deux boîtes, alors?
Plutôt 4.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 24,06€ le kilo, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Allez, la dernière ligne droite du magazine des déchaînés du football et du quiz, puisque Guingamp n'a pas joué ce week-end. C'est le quiz sur l'En Avant Guingamp en direct jusqu'à 20h30.
On rappelle les scores à l'issue des deux premières manches. David 8, Pierre 15, mais tout reste encore possible parce qu'il reste 5 questions de rapidité, 2 points par bonne réponse. Et donc, David a encore
4 ou 5,
les cartes en main pour remporter ce quiz face à Pierre. Pierre-Henri Dufay. Attention messieurs, cette fois il faudra être rapide.
Il y a combien de questions?
5 questions. 5 questions et un bonus si jamais il y a
combien de points à gagner à chaque bonne réponse?
10 par bonne réponse. 2 par bonne réponse, ce qui fait que tout est encore jouable dans ce quiz consacré à l'en avant Guingamp. Lorsque vous avez la réponse, messieurs, vous dites votre prénom et derrière je vous donne la parole pour que vous donniez votre
banque.
Réponse.
À l'époque c'était mieux de dire banque.
Banque, oui, ou banque si vous voulez. Première question, soyez prêts sur le buzzer, messieurs. Qui est le meilleur buteur guingampais cette saison?
Pierre.
Allez-y.
Comme disent nos amis, Arthur Gomis.
Oui, c'est ça, Yannick Arthur Gomis, meilleur buteur avec 8 buts cette saison pour Guingamp. Deuxième question de cette dernière manche, combien de saisons de Ligue 1 l'EAG a-t-il disputé dans son histoire?
David.
Oui, David.
10.
C'est
13.
C'est 13, la bonne réponse, ouais. Et mais du coup, pas de bonne réponse, puisque pas de point pour notre ami Pierre. 0 point sur cette question. Troisième question maintenant. Attention, là, il va falloir se creuser les méninges. Quel ancien guingampais entraîne actuellement un club de national?
C'est pas facile, ça.
Pierre. C'est pas facile, ça doit être dur. Oui.
Laurent Guyot.
Très bonne réponse. Laurent Guyot, entraîneur de Boulogne en national, l'adversaire de Concarneau demain. Boulogne qui est dernier de ce championnat cette saison.
Alors, Laurent Guyot, il a joué quand, Laurent Guyot?
C'était aucun souvenir. 2000.
Ouais, 2000 à 2002, je crois, de mémoire.
Charnière centrale avec Hubert Fournier, me semble.
Exactement. Ouais, Laurent Guyot qui était l'entraîneur, qui était défenseur de Guingamp, qui est désormais entraîneur de Boulogne. Quatrième question. Attention, préparez-vous, soyez les plus rapides. Qui fut le premier buteur de Guingamp en Coupe d'Europe?
Oh, ya. Je vais prendre le risque.
Oui.
Pierre, attendez, c'est hors la ville?
Non.
Aïe. Bon, non. C'était contre Bucarest?
Oui. Est-ce que vous l'avez, David?
Pas du tout.
Alors, c'est pourtant une légende dans l'avant.
Bon, vous me comptez pas de points.
Non. Ouais,
allez-y, David, allez-y.
Vrai?
Non plus.
C'est
peut-être
pas là.
Carnot.
Oui, c'était Stéphane Carnot.
Et Josia qui avait marqué juste après, je crois aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est Carnot qui avait mis le premier but de Guingamp dans toute son histoire en Coupe d'Europe. Le dernier, on s'en souvient, c'est Christophe Mandan.
Intertoto.
Contre le Dynamo Kiev. Oui, Intertoto à l'époque.
95, non?
Oui, 95, ça. Oui, était 95.
96
Oui, 96, parce que Guingamp est monté en 95 et voilà.
c'était l'été
suivant. Exactement. Dernière question de ce quiz.
La
question
combien de points?
Alors, ça fait combien? Ça fait 19-8. La question à 20 points pour que David puisse gagner ce quiz.
Banco.
Soyez prêts, messieurs. Attention, on en a parlé en plus dans l'émission tout à l'heure de ce thème-là. Quel Guingampais vient de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations pendant cette trêve internationale?
Pierre.
Ah, David était le plus
David.
Rapide.
M'Shangama.
Exactement, Youssouf M'Shangama.
Bravo.
Et la victoire, 28 à 19.
Là,
de Youssouf M'Shangama.
J'ai pas existé dans ce quiz, vraiment.
La victoire de David grâce à Youssouf M'Shangama. Il y a une belle bagarre en tout cas, parce que sur certaines questions, et notamment sur cette dernière phase, là, ça s'est bien bagarré. Pour fun, je vois qu'il nous reste deux bonnes minutes. La petite question bonus que j'avais préparée pour 40 points cette fois. On parlait de la Coupe de la Ligue tout à l'heure, des joueurs qui ont marqué pour Guingamp en Coupe de la Ligue, mais il y a deux joueurs qui ont marqué pour Guingamp mais contre leur camp, c'est-à-dire des adversaires dans cette Coupe de la Ligue. Est-ce que vous les avez, ou au moins leur club?
Pierre.
Oui.
Alors, pour Guingamp, hein.
Oui, voilà, des adversaires camp. Qui ont marqué contre leur camp pour en avant.
Il y a Mamadou Sakho.
Oui.
Avec Paris.
Exactement.
Et est-ce que le deuxième c'est après ou avant?
Avant.
Oh là 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 là.
Et c'est aussi avec le Paris Saint-Germain.
Ah, c'était en 95-96 dans ces eaux-là.
C'est dans ces eaux-là, j'ai plus la saison exacte, mais c'est dans ces eaux-là, ouais.
Ah, je sais pas si je veux l'avoir. Le Gwen Guérin.
Non, est-ce que David a une petite idée?
Bernard Lama ou les Pizzi?
Non, ce n'est pas un gardien non plus, mais c'est.
Défenseur
Je sais même plus s'il est défenseur au milieu, ce joueur. s'il était.
Moi, je, honnêtement, je crois que
la langue gauche.
C'était Didier Domi qui avait, qui avait marqué contre son camp pour en avant. Voilà, deux joueurs du PSG donc, qui ont marqué.
Du coup, pour Sakho, j'ai combien de points?
Eh ben, moins 5.
Aïe, 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 aïe.
Oui, parce que vous n'aviez pas toute la réponse.
C'est vrai, je m'incline. Je m'incline.
Merci beaucoup, en tout cas, David, et bravo à tous les deux pour ce quiz Guingamp.
Et merci à vous Gaëtan. Merci
prochain
Gaëtan.
Match prochain match des Guingampais, on l'a dit, on le répète, ce sera samedi prochain, samedi on sera déjà le 3 avril, match à 20h en direct de 3, prise d'antenne à 19h30, c'est Gaëtan qui retransmet le match ou c'est Pierre?
Ce sera Pierre.
C'est moi.
Ce sera Pierre.
Ah, ouais. On retrouve les Guingampais, là, on va reprendre la baraque parce que ça va plus. Hein. Faut gagner des matchs.
Bravo David, merci à vous merci. Tous et prochain rendez-vous donc avec les déchaînés du football, la rubrique demain matin 8h40. Exactement. Et puis les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 le week-end prochain, la Ligue 2 d'abord samedi soir donc avec Guingamp et puis le derby dimanche après-midi à 15h, Brest contre Lorient. Merci à tous, bonne soirée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez Radio Bonheur à Saint-Brieuc sur 99.1, à Lorient sur 93.3. À Guingamp sur 90.1, à Lannion sur 99.0, à Châteaulin sur 104.0, à Carhaix sur 99.0, à Saint-Malo sur 96.7 et à Brest sur 95.9.